Bonjour à toutes et à tous, nous allons corriger l'exercice, donc jour 9, préparation d'une phéromone qui porte sur la réaction d'estérification. Donc c'est une transformation chimique très importante qui tombe très régulièrement au baccalauréat puisque nous retrouvons les esters dans les phéromones par exemple, mais aussi dans tout ce qui est arôme, parfum, etc. Alors la première question porte justement sur la réaction de synthèse de cette transformation chimique et une transformation, nous allons le voir, d'estérification. Donc justement sur la première question, question 1.1.1, sur la formule semi-développée de la molécule P, entourez le groupement fonctionnel présent et donnez le nom de ce groupement. Donc la molécule P est la molécule produit, c'est le produit intéressant puisque l'autre produit, nous le voyons, dans une réaction d'estérification et de l'eau. Alors nous allons en reparler juste après. Alors, pour se focaliser sur la première question, donc entourer le groupement fonctionnel de la phéromone, donc on reconnaît un groupement ester, C double liaison O, simple liaison oxygène, et de l'autre côté, donc de l'oxygène simplement lié au carbone, on retrouve un autre carbone, ce qui est caractéristique du groupement ester. Ce groupement ester n'est pas à confondre par exemple avec le groupement carboxyle où on a aussi COO, mais à côté donc de l'oxygène simplement lié, on a un atome d'hydrogène pour les acides carboxyliques. Ce n'est pas non plus à confondre avec par exemple une cétone, puisque pour qu'il y ait une cétone, il faut C aussi double liaison O, mais de l'autre côté, au lieu de l'oxygène simplement lié, on aurait une chaîne carbonée. Question donc 1.1.2, donner la formule semi-développée et le nom de l'alcool B. Alors pour ce faire, il faut se souvenir justement de la transformation donc d'estérification. Pour faire une estérification, il faut donc un acide carboxylique qui nous est proposé, qui est l'acide éthanoïque, et il nous faut donc un alcool. Les deux réagissent ensemble, c'est une réaction de condensation avec une perte de molécules d'eau. Et donc, on reconnaît dans la première partie de la molécule P, donc CH3COO, l'acide justement éthanoïque. Et donc, de l'autre côté, on va avoir le côté alcool avec donc la molécule OH, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Et donc cette molécule d'alcool est un alcool donc ramifié. On reconnaît donc l'alcool avec son groupement OH. Et c'est donc un alcool ramifié qui a donc sa chaîne principale avec 4 carbones, donc le butane, qui a donc le groupement hydroxyle OH sur le premier atome de carbone, donc butane 1-ol. Et il est ramifié sur le troisième atome de carbone en partant donc sur le numéro 1 du carbone, donc qui est le carbone rattaché au groupement donc fonctionnel, ce carbone fonctionnel, et donc la ramification méthyle, donc un atome de carbone, CH3, est sur le troisième carbone. Donc finalement, cet alcool se nomme donc le 3-méthyl-butane-1-ol. La question donc 1.1.3 et d'écrire l'équation justement de la réaction de synthèse permettant d'obtenir la molécule de la phéromone P. Donc si on récapitule, donc on a dit qu'il fallait un alcool pour faire une réaction d'estérification, qui est le 3-méthylbutane-1-ol, donc CH3, CH, CH3, CH2, CH2OH, plus il faut donc un acide carboxylique qui est l'acide éthanoïque ici, CH3COH. Donc ça nous donne quoi comme produit? Ça nous donne la phéromone donc P plus une molécule, toujours dans une réaction d'estérification, l'autre produit, le coproduit, est la molécule d'eau H2O. Question 1.1.4, préciser les deux caractéristiques principales de cette transformation. Donc, à savoir également, c'est souvent une question aussi qui tombe très régulièrement, la réaction d'estérification, donc c'est une réaction lente, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas rapide, et limitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totale. Et donc on va chercher souvent à savoir comment la rendre plus rapide, en jouant sur quel facteur cinétique par exemple, ou comment la rendre davantage proche de 100%, puisque c'est une réaction limitée avec un rendement proche, plus proche de 100%. Et donc on va le voir là au cours des autres parties. Question donc 1.2. Préparation de la phéromone P. Donc justement, on nous demande pourquoi chauffe-t-on le mélange acide A, alcool B et quel est l'intérêt d'un dispositif à reflux? Donc on chauffe puisque la température est un facteur cinétique, c'est-à-dire va jouer sur la vitesse de réaction, d'estérification, et on va chauffer donc pour accélérer la réaction d'estérification, qu'elle se fasse plus rapidement puisque c'est une réaction lente. Et on demande quel est l'intérêt d'un dispositif à reflux. Donc le dispositif de chauffage à reflux va permettre d'éviter les pertes de matière par condensation justement des vapeurs au niveau du réfrigérant à boules. Question 1.2.2. Quel matériel choisi dans la verrerie disponible utiliseriez-vous pour mesurer le volume VA d'acide éthanoïque? Donc on regarde le matériel disponible d'un côté, puis on regarde aussi le volume d'acide éthanoïque, avec quelle précision il est demandé. Donc on voit dans le texte ici que le volume est de 14,3 millilitres. Avec la verrerie disponible, on constate qu'avec 14,3 millilitres, c'est une verrerie précise qu'il nous faut. Le Bécher n'est pas une verrerie précise, l'éprouvette graduée n'est pas non plus une verrerie précise. Les pipettes graduées sont de 1 millilitre, 2 millilitres, 5 millilitres, 10 millilitres, donc un volume inférieur à celui qu'on veut prélever. Les pipettes jaugées sont pour des volumes très précis, 1 ml, 5 ml, 10 ml ou 20,0 ml. Et donc il nous reste la burette graduée au dixième de millilitre de 25 ml qui correspond donc à un volume donc inférieur à 25 ml comme ici de 14,3 ml avec une précision suffisante. Question donc 1.3.1. Calculer les quantités de matière, donc Na0 et Nb0, de chacun des réactifs. On utilisera pour cela les données du tableau 1. Donc on va voir le tableau 1 avec les données. On a les masses molaires, les masses volumiques, la température d'ébullition et la solubilité dans l'eau de différentes espèces. On veut déjà déterminer la quantité de matière donc de l'acide éthanoïque. Donc l'acide éthanoïque, on a comme donner justement le volume à prélever, donc 14,3 millilitres. On a également sa masse volumique, donc on peut en déduire grâce à ces deux données donc la masse. Et puis on se rappelle d'une relation à connaître tout le temps en chimie qui est petit n égale petit m sur grand m. Donc on a n qui est égal à petit m sur grand m qui est égal à rho fois v en utilisant la masse volumique et le volume sur grand m. On fait l'application numérique. La masse volumique est de 1,05 g par millilitre. Attention à bien regarder à chaque fois l'unité de la masse volumique qui va déterminer aussi si le volume on le laisse en millilitres ou on le transforme en litres, on le convertit en litres. Donc ici, grammes par millilitre multiplié par des millilitres, ça nous donnera bien des grammes et des grammes sur des grammes par mol, des mols. Donc la quantité de matière d'acide finalement c'est 1,05 fois 14,3 sur 60. La masse molaire qui est égale donc à la quantité de 0,250 mol. Pour l'alcool B, dont on connaît maintenant le nom, on a une masse de 22 grammes. Donc tout de suite, on pense à la relation fondamentale N est égal à petit m sur grand M. Donc NB0, c'est 22,0 sur 88,0, ce qui fait également 0,250 mol. On voit que le mélange est donc équimolaire. La même quantité de matière, d'acide et de base, et que les réactifs ont été introduits ainsi dans les proportions stoichiométriques. Question donc 1.3.2, compléter le tableau d'avancement, donc les lignes 3 et 4 de l'annexe, donc à rendre avec la copie. Donc état initial pour CH3COH, on a une quantité de matière initiale, on vient de le calculer, de 0,250 mol. Pareil pour la quantité de B, 0,250 mol. Au départ, il n'y a pas de phéromone ni d'eau produite par la réaction, donc 0,0. La ligne 4, donc quand l'avancement avancé de X mol, la quantité de matière des réactifs a diminué de X, et au contraire, la quantité des produits a augmenté de X, puisque tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1 dans cette équation de réaction. Donc 0,250 moins x pour CH3COH, 0,250 moins x également pour l'alcool B. Il s'est produit x mol, donc 0 plus x mol, c'est-à-dire x mol de phéromone et x mol d'eau. Question 1.3.3, calculer l'avancement maximal donc X qui est noté XM ici. Les réactifs, comme on l'a dit avant, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, ce qui veut dire que les deux réactifs vont être limitants, et donc on peut calculer directement là le X max qui vaut 0,250 mol. Question 1.3.4.A. Donnez la relation liant la quantité de phéromones formées dans l'état final et l'avancement final XF. Donc en regardant la ligne 5, on constate tout de suite que XF correspond à la quantité de matière formée de phéromones, le nombre stoichiométrique étant encore une fois égaux à 1. Donc on a tout de suite que NP égale XF. Et on va pouvoir déterminer cet avancement final XF puisque on sait dans les données que après extraction, il obtient donc une masse, donc MP égale 21,7 grammes de phéromone P. Donc le préparateur obtient cette masse-là. On peut donc calculer la quantité de matière correspondante. Donc 21,7 sur la masse molaire de la phéromone, qui est égale à 130. Ça nous donne 0,167 mol pour XF. Question suivante, 1.3.4.B. Exprimer et calculer le taux d'avancement qui correspond ici au rendement de cette réaction. Donc le taux d'avancement c'est XF, c'est-à-dire la quantité finale, la quantité réellement obtenue lors de cette transformation chimique, sur Xmax, la quantité maximale que l'on aurait obtenue si la réaction avait été donc totale et sans perte. Donc là ici, pour calculer, donc on a à disposition XF, puisqu'on vient de le déterminer, 0,167 mol, et on a aussi Xmax, puisque on l'a déterminé aussi à la question 1.3.3. On fait le rapport entre les deux. On sait qu'on doit trouver un nombre qui est inférieur ou égal à 100% dans le cas d'une réaction totale. Ici, on trouve donc un taux d'avancement de 66,8%, ce qui signifie bien que la réaction d'estérification est limitée, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Question suivante. 1.3.5.A. Définir la constante d'équilibre K associée à cette réaction de synthèse. Alors, donc, savoir déjà ce que c'est une constante d'équilibre, K majuscule, c'est le quotient de réaction de la transformation la chimique à l'équilibre. Connaître sa définition de manière générale et savoir aussi l'appliquer pour la stérification. Et faire attention surtout au rôle de la molécule d'eau ici. On sait donc que le coefficient, la constante d'équilibre K, dépend de la concentration des produits et des réactifs. Donc c'est le produit des concentrations sur le produit des réactifs avec les nombres stoichiométriques qui interviennent s'il y en a en puissance. Donc ici, tous les nombres stoichiométriques déjà sont égaux à 1, donc on a déjà éliminé une première difficulté. Par contre, la deuxième difficulté, c'est que la molécule d'eau ici, on sait que son activité peut être égale à 1 dans le cas des solutions donc aqueuses, puisque l'eau est majoritaire. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque on est en chimie organique et l'eau est un produit, du coup, comme un autre, ce qui signifie qu'on va compter sa concentration ici. Donc, ce qui nous donne finalement que donc question 1.3.5.A, que la constante d'équilibre K vaut la concentration de l'eau à l'équilibre fois la concentration de la phéromone à l'équilibre divisé par la concentration donc de A à l'équilibre fois la concentration de B à l'équilibre. Question suivante, l'exprimer donc cette constante en fonction de XF, NA initial et NB initial. Donc d'après ce qu'on vient de dire sur les concentrations, on se souvient que la concentration c'est la quantité de matière sur le volume. Donc concentration en eau ça va être d'après le tableau d'avancement XF sur V. Concentration du produit P aussi XF sur V. Divisé par concentration de A, donc d'après le tableau d'avancement, donc c'est NA0 moins XF sur V, fois concentration de B, quantité de matière de B, c'est-à-dire NB0 moins XF sur V. Les volumes se simplifient, il reste donc XF au carré sur NA0 moins XF fois NB0 moins XF. On peut faire donc dans la question suivante 1.3.5.C l'application numérique, puisqu'on sait d'après le tableau d'avancement que XF vaut 0,167 et que NA0 moins XF et NB0 moins XF, en remplaçant donc XF par sa valeur 0,167 et NA0 On le voit dans le tableau d'avancement ligne 4 par 0,250 et NB0 également, ce qui nous fait finalement que K vaut 0,167 au carré sur 0,083 au carré. Question suivante. Donc on a bien montré que K vaut finalement 4. 1.3.6.A, on nous dit que dans les mêmes conditions, on va mélanger cette fois donc 0,25, 0,250 mol, comme tout à l'heure, d'acide éthanoïque, mais on va doubler la quantité de matière d'alcool. On passe de 0,250 à 0,50 mol d'alcool. Puis on chauffe à reflux, donc on refait pareil que tout à l'heure. Que pouvez-vous dire du quotient de réaction QRF dans l'état final? Calculez l'avancement final XF prime de cette transformation en utilisant la question 1.3.5.B. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le quotient de réaction dans l'état final, il ne dépend pas de la composition initiale du système chimique. Donc déjà, le quotient là, de réaction finale va correspondre à la constante d'équilibre, au K majuscule, au grand K. Et donc, on a sa valeur, ça sera toujours donc ici 4. On va exprimer de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc le K, il va valoir la constante de réaction à l'équilibre, donc XF' au carré sur N'A0 moins XF' fois N'B0 moins XF' par analogie exacte avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc en passant le K de l'autre côté, on trouve que XF' au carré est égal à N'A0 moins XF' fois N'B0 moins XF'. On peut donc un peu modifier ça en remplaçant par les valeurs numériques. Donc la quantité de matière de N'A0 c'est 0,25, la quantité de matière de N'B0 c'est 0,50. Le K, comme on l'a dit, est indépendant de la composition initiale, donc vaut toujours 4. Et donc on va aboutir finalement à une résolution, enfin une équation déjà, donc du deuxième degré, sous la forme donc 3xf' au carré moins 3xf' plus 0,50 est égal à 0. Alors bien sûr, on peut la résoudre à la main, mais le plus rapide, c'est de prendre sa calculatrice, de la résoudre, et on trouve deux valeurs de XF'. On trouve une première valeur qui est égale à 0,79 mol, ce qui n'est pas possible puisqu'on a vu qu'on voit que l'avancement maximal Xmax vaudrait 0,50 mol, donc on ne peut pas avoir une quantité, un avancement plus grand que l'avancement maximal. Et donc l'autre valeur que nous donne notre calculatrice, c'est 0,21 mol, donc cette valeur est cohérente chimiquement. Et donc, on voit donc que XF' vaut ici 0,21 mol. Question 1.3.6.B. Maintenant qu'on a déterminé la nouvelle valeur de l'avancement final, on va pouvoir calculer le nouveau taux d'avancement final, taux prime, qui correspond au nouveau rendement de la réaction. Donc là, ici, l'avancement maximal est le même que tout à l'heure, c'est 0,25 mol. Cette fois, par contre, le XF' a augmenté, on est passé à 0,21 mol. On calcule le nouvel avancement final taux prime qui vaut 84%. On constate donc que taux prime est supérieur au taux qu'on avait déterminé tout à l'heure qui valait à peu près 67%. On nous demande après d'en déduire une façon assez générale d'améliorer le rendement de la réaction. Donc on peut améliorer le rendement de la réaction en utilisant des réactifs en excès. On se souvient qu'il y a deux possibilités assez facilement mises en place pour augmenter, améliorer un rendement. Soit on utilise comme ici un des réactifs en excès, soit on élimine au fur et à mesure un des produits pour se déplacer dans le sens direct de la transformation chimique d'estérification ici. Question 1.4, justement, augmentation du rendement de la réaction, nous propose trois possibilités. Première proposition, d'ajouter une plus grande quantité d'acide sulfurique concentré. Non, puisque l'acide sulfurique est un catalyseur et donc va jouer donc sur la cinétique de la réaction, la vitesse de la réaction. Il va augmenter sa vitesse, mais ne modifie en rien le rendement. Éliminer l'eau par distillation au fur et à mesure de sa formation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une bonne solution afin d'augmenter le rendement, puisque ainsi le quotient de réaction va diminuer, et donc on va toujours être dans le cas où QR est inférieur à K, et donc la réaction va évoluer toujours dans le sens direct. Et enfin, remplacer l'acide éthanoïque par de l'anhydride éthanoïque. L'anhydride éthanoïque permet d'avoir une réaction totale avec l'alcool, et atteindre ainsi 100% en théorie de rendement. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.